Non, nous ne sommes pas des terroristes.
Et non, toujours pas.
158e Divergence Numérique, votre magazine hebdomadaire sur les logiciels libres, sur le 93.9 de Divergence FM, mais aussi sur les ondes de Radio Escapade et sur les ondes de Radio Larzac.
12e émission, saison 10.
Aujourd'hui, eh bien, la sixième, la semaine 6, passée au crible de la revue de presse de l'April, avec eh bien, le trio au complet aujourd'hui, avec Mediapart, ZDNet.fr, Framablog, Acrimed, Slate, PC Impact ou 01Net Pro, qui parleront de révolution informationnelle, l'antichambre autogestionnaire du communisme 2.0, de Microsoft, de 9 points ou tabous jamais discutés dans le logiciel libre, un brin trollesque celui-là. La Bibliothèque nationale de France, encore et toujours, avec ses choix plutôt bizarres. Le changement séquent pose la question chez Slate. Le droit de lire de VLC, consultation et premier avis de la Hadopi. Open bar entre Microsoft et la Défense. Les geeks sont les nouveaux défenseurs des libertés publiques. Ou encore la France du libre, combien de divisions. Et puis, on parlera eh bien, de ce qui s'est passé en préambule au FOSDEM à Bruxelles il y a quelques jours de ça. À savoir le tout nouveau groupement d'utilisateurs Linux du Parlement qui invitait enfin le Alexander Alvaro, vice-président du Parlement européen, un des parrains de ce LUG, qui invitait eh bien, notamment les gens de la Free Software Foundation Europe à faire une présentation de la campagne Free Your Android, puisque eh bien, c'est un des systèmes d'exploitation pour téléphone le plus répandu, majeure partie libre, mais développé par Google principalement. Malheureusement, les pilotes des appareils ainsi que la plupart des applications du market ne sont pas forcément libres. Des logiciels qui fonctionnent souvent à l'encontre des utilisateurs en les surveillant, parfois même ne pouvant pas être installés. Donc une campagne qui sera détaillée par, eh bien, par Eric Albers, coordinateur adjoint de la Fellowship de la FSFE. Il présentera la campagne avec diverses interventions des participants ainsi que Carsten Gerloff, président de la FSFE, lui coordinateur du côté standards ouverts. Et puis on a tout plein de musique avec une compile aujourd'hui.
Oui, on n'écoutera pas les 23 morceaux de cette compilation que j'ai encore puisé sur le label 23 secondes. C'était la sortie numéro 75.
Avec des groupes qu'on a déjà eu l'occasion d'entendre dans Divergence Numérique.
Oui, tout à fait, tout à fait.
Emerald Park, Tobias Borelius.
Exactement.
Ou encore...
Azura.
Azura, voilà, oui, tout à fait. Voilà. Et puis plein d'autres. 22 titres dans cette compilation.
23
titres, et oui, 23 titres. J'avais oublié Glenn Liljestrand.
Exactement, donc on écoutera d'autres morceaux, bien sûr, que nous avons écoutés précédemment, par rapport à cette compilation.
Et pour l'heure, eh bien, on va démarrer tout de suite, sans plus attendre, avec la revue de presse de l'April pour la semaine 6 de l'année 2013.
Liberté, égalité, fraternité.
Une majorité de la société mise en esclavage.
Que l'argent public doit payer qu'une fois.
Et là, c'est la voix du peuple qui a parlé.
Revue de presse hebdomadaire
de l'April.
So it is not just a free software problem.
Une volonté politique de prendre le contrôle du net.
Privatisation de ce bien commun.
Avec Luc, Manu et Nico.
Des mouchards dans nos ordinateurs.
Des coups de poutoir contre la neutralité du réseau.
Revue de presse de l'April, semaine 6, année 2013. Salut Manu.
Salut Nico.
Salut Luc.
Donc notre sommaire.
Une grosse revue de presse, 9 articles. On va vous parler de communisme 2.0, Microsoft, de débats et de gros trolls, la Bibliothèque nationale, encore une fois, les évolutions du gouvernement, le VLC et les DRM, l'open bar entre Microsoft, encore, mais ce coup-ci la défense qui est en face, les geeks qui seraient les nouveaux défenseurs des libertés numériques, et pour finir, on reparle de la France du libre.
Mediapart, la révolution informationnelle, antichambre autogestionnaire du communisme 2.0. Point d'interrogation, une interview par communiste unitaire, et qui est une interview de qui donc ?
une interview de Jean Lojkin, un sociologue et directeur de recherche émérite au CNRS, et par ailleurs, et qui a fait un gros article, enfin il y a un gros article, mais moi j'ai un peu rien compris.
C'est un peu incompréhensible au début, c'est le mélange de philosophie, social, un peu de tout, un bon article comme Luc les aime, je pense.
Alors Luc, vas-y, explique-nous ça.
J'ai pas été super emballé, j'ai trouvé effectivement qu'il n'y avait pas quelque chose de vraiment lumineux qui se dégageait là-dessus. C'est un sociologue clairement super marxiste et communiste, hein, il s'en cache pas du tout dans l'article. Et bon, bah voilà, son objet, c'est de dire que bah, le monde change et qu'aujourd'hui, bah, on parle beaucoup de capitalisme cognitif. C'est l'information qui fait aujourd'hui le pouvoir du capitalisme. C'est un peu une adaptation des idées communistes à cette nouvelle organisation du capitalisme. Moi, je suis, bah, par principe, un petit peu hésitant face aux grandes catégories qui expliquent tout le monde et tout ça, notamment le capitalisme. Je trouve ça très très large finalement.
Ceci dit, il associe deux choses négatives entre elles, deux choses positives entre elles. Hein, d'après lui, capitalisme et logiciel propriétaire, communisme et logiciel libre. Qu'est-ce que c'est étonnant.
Ça qui est un article, hein, donc c'est pas un bouquin non plus. J'ai bien du mal à me prononcer, donc il parle quand même d'un livre qu'il a fait, hein, qui est une autre façon de faire de la politique.
Compréhensible, j'espère.
Donc par Gilles. Voilà, l'article, bon, moi j'ai pas été emballé, donc si vous êtes vraiment anticapitaliste et que tout ce vocabulaire vous convient bien et que vous le maîtrisez, il y a peut-être des trucs à en sortir, moi j'ai pas trouvé ça très limpide. ZDNet.fr, Microsoft moins cher que l'open source, non, rétorque la ville de Munich, article de Thierry Noisette.
Donc on reparle de Munich et du fait que ils sont passés, ils ont décidé ça il y a déjà quelques années, au libre.
Bah, ils sont passés au libre et ils ont essayé de faire un peu le bilan de ce que ça leur a coûté de passer au libre et qu'est-ce que ça leur aurait coûté de passer sous Microsoft. Et pour eux, ils ont été entièrement bénéficiaires, sauf que Microsoft est arrivé par là et a décidé de faire un peu un audit ou je sais pas trop
ils
quoi.
Ils ont sorti
un rapport,
une étude, un rapport.
Faites par
très
HP,
objective, très objectif,
avec des chiffres un peu bidonnés, genre un bon millier de développeurs pour mettre ça en place. Et leur conclusion, ça serait que ça coûterait plus cher de faire de l'open source et du libre que du propriétaire. C'est à moitié étonnant seulement.
Ce que j'ai tout de suite remarqué, Munich, c'est que certes, un millier de développeurs, ils ont peut-être ça dans leur staff en tout, enfin de développeurs, d'informaticiens, mais clairement pas alloués à cette tâche-là. Donc c'est vraiment du pipeau, du gros pipeau.
Oui, alors c'est un article qui fait chaud au cœur, ça rentre dans la ligne de toute cette question de structure, entreprise et beaucoup d'administrations qui ont fait le choix du libre, qui parfois en reviennent, qui parfois y vont, avec des arguments contradictoires, un coup on dit que c'est plus cher, un coup que c'est moins cher, qu'il y a trop de contraintes, etc., que c'est pas possible, que ça marche pas, ou au contraire que ça marche très bien. Et donc là on a un exemple de quelque chose qui fonctionne, et d'une collectivité, c'est un projet sur le long terme, hein, c'est sur plusieurs années, et qui est contente du résultat.
Et ça marche très bien.
Framablog. Débat, 9 points ou tabou, jamais ou rarement discuté dans le logiciel libre. Un article de Bruce Byfield, donc traduit par l'équipe Framablog.
Un gros article à troll, n'est-ce pas ?
À troll, je dirais pas ça, parce que la vérité, il y a quand même un fond de vérité.
Moi, je le dirais.
Ouais, on peut le dire. Il y a certains articles.
Un bon troll a toujours un fond de vérité.
Là, il y a quand même des choses un peu vraies. Je pense qu'il durcit un peu le trait quand même pour ramener un peu le troll, essayer de faire monter un peu les choses dessus. Il y a quand même des parties qui sont assez intéressantes. On peut en citer quelques-unes, je pense.
Ouais.
Donc, dans l'ordre, Ubuntu n'est plus le dernier grand espoir de l'open source. Le cloud computing sape les licences libres. Richard Stallman est devenu un atout contestable. L'open source n'est pas une méritocratie. L'open source est gangréné par un sexisme systémique. Microsoft n'est plus l'ennemi irréductible du logiciel libre. L'innovation des interfaces stagne, etc., etc.
Ouais, et donc des sujets qui sont peut-être intéressants, mais ouais, franchement, c'est du gros troll.
Alors, ils disent que c'est jamais débattu. Il y en a quand même au moins les trois quarts dont j'ai déjà débattu et déjà entendu débattre dessus. Donc déjà, rien que le titre, il est assez trollesque. Et puis bon, les explications derrière, elles sont quand même très brèves. Donc il y a un truc sur le sexisme aussi, et on retrouve des poncifs et des discussions très très larges. Donc c'est des affirmations faciles avec finalement pas nécessairement des trucs très très sérieux derrière. Mais troller, c'est bon, hein, moi je suis pas...
Oui, mais troller, c'est toujours marrant.
En tout cas, c'est fun, allez voir l'article. Si vous voulez un petit peu creuser, c'est toujours marrant.
Si vous voulez faire votre place dans un milieu de geek, c'est une très très bonne méthode. Maîtrisez certains trolls et vous les lancez. Le troll, hein, c'est les sujets polémiques. Et vous voyez après les autres débattre et sont trop déchirés. Et ça marche extrêmement bien. Donc, si vous ne maîtrisez pas le monde de l'informatique libre et que vous connaissez des libristes, apprenez par cœur ces 9 questions et balancez-les au hasard.
Par
et vous verrez, ça marche très bien. Et c'est super rigolo. Acrimed, quand la Bibliothèque nationale de France privatise le domaine public, un article de Jean Pérez.
On reprend encore le sujet, donc la Bibliothèque de France qui a filé des droits pendant 10 ans, des droits d'exclusivité pendant 10 ans.
Voilà, on l'a évoqué la semaine dernière et même la semaine d'avant, je crois. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans cet article ?
Bah, pas grand-chose, hein, pour moi, si ce n'est que là, il y a les institutions qui mettent un peu le pied dedans et qui en parlent.
Bah oui, c'est ça, depuis la semaine dernière, tout le monde est en train de lever des boucliers, donc toutes les associations libres, même certaines entreprises, même des administrations qui commencent un peu à taper du poing sur la table en disant que c'est pas normal que la BNF, bah, qui est pas propriétaire de ces œuvres-là, bah, puisse les en jouir et les mettre à disposition de sociétés commerciales et privatrices. Il y a une pétition qui est en train de circuler pour demander de libérer toutes ces œuvres et de pas les privatiser.
Moi, je rajouterais, l'article remonte ce qui pourrait être considéré comme des détails ou de la forme. Voilà, dans les contrats en jeu, il y a différentes clauses. Donc déjà, on ne connaît pas exactement les contrats, mais on sait qu'il y a certaines clauses, et ces clauses-là ne sont pas bien remplies par tout cet accord-là. Donc ça commence mal, et effectivement, il y a plein de gens qui se lèvent contre ça. Donc on peut espérer qu'il y aurait des conséquences positives.
Sled.fr numérique, le changement, c'est quand ? Un article de Titiou Lecoq.
Alors, j'aime beaucoup cet article. Alors déjà parce que le ton, enfin c'est un article transversal, donc vraiment d'analyse sur la question du numérique.
Oui, on reparle de la taxe Google, on parle de la BNF.
Voilà. Et la journaliste en question est en général assez intelligente, et en plus ça, ce qui est très rigolo, c'est qu'elle a un style très familier.
Et agréable à lire,
ouais. Très agréable à lire et très marrant, mais le fond est très intéressant et c'est pas juste de la déconne.
Et ça tranche dur.
Voilà, elle mâche pas ses mots. Sur la question de la BNF, par exemple, il y a un truc qu'elle cite, je sais pas si c'est dans l'autre article, mais où elle dit que dans d'autres pays européens, il y a des accords de ce genre-là qui ont été négociés et qui sont beaucoup plus favorables, on en a beaucoup plus pour son argent. Donc voilà, c'est des petites choses comme ça. Et voilà, vraiment un bon article, très accessible, très rigolo à lire et vraiment pertinent.
PC Impact, le droit de lire de VLC, une consultation et un premier avis de la Hadopi par Marc Ress.
Donc finalement, un retour d'un sujet qu'on avait eu il y a quelques mois.
Nicolas, VLC, c'est déjà un logiciel qui permet de lire de la vidéo et des choses comme ça.
Voilà, ça, VLC, ça permet de lire de la vidéo. Donc il y a une association derrière, donc Vidéolan, qui est une association française en plus. Et aujourd'hui, ils veulent implémenter, mettre à disposition la lecture de Blu-ray. Sur le logiciel, sauf que les Blu-ray aujourd'hui sont blindés de DRM, sont absolument pas lisibles sauf avec des logiciels propriétaires, des menottes numériques et plein d'autres saletés. Et donc ils ont demandé à la Hadopi de faire appliquer une loi qui apparemment les autoriserait à craquer les DRM dans le but d'être interopérables, donc que le grand public puisse lire les DRM avec Vidéolan.
Voilà, ça fait partie des prérogatives de la Hadopi.
Voilà, c'est une loi qui autorisait la Hadopi à faire ça, et donc ils ont demandé à la Hadopi qu'est-ce qu'ils pensaient sur le sujet, et là apparemment il y a eu une réponse.
Alors, ils l'ont demandé déjà il y a longtemps,
ça a traîné
à la Hadopi pour commencer à se prononcer, c'était un peu la question embarrassante.
Ça fait quasiment un an, voilà, ça a traîné, ça a été relancé plusieurs fois, il y a eu des consultations publiques qui n'étaient pas publiques, enfin il y a eu un peu un gros micmac. Là, apparemment, il y a une réponse assez tranchée de Hadopi, qui est en gros que les clés en fait qui permettent de protéger les DRM, les DVD, ne sont pas publiables en tant que tels, et donc que Vidéolan ne pourrait pas avoir accès à ce genre de technologie. C'est un peu un coin de ciel gris pour Vidéolan.
En même temps, on s'en doutait un petit peu.
On s'en doutait un peu.
Le principe même de DRM, hein, donc c'est ces systèmes informatiques qui vont verrouiller la lecture, ou l'usage ou la copie d'un contenu, c'est assez antinomique avec la notion d'interopérabilité par principe. Donc on se doutait que ça passerait mal, ça a permis de mettre le truc sur la table, quoi.
On s'en doutait, mais en théorie, les deux requis étaient à égalité, c'est juste que là maintenant, il y en a un qui se révèle plus important que l'autre.
On voit lequel ils ont choisi, quoi.
Ouais. Voilà, donc là-dessus, on ne peut pas s'attendre à grand-chose d'autre, si ce n'est que maintenant, peut-être, Vidéolan, ils vont s'autoriser à craquer les DRM. Après tout, il y aura peut-être un petit Suédois qui, une nuit de pleine lune, va s'autoriser à faire quelque chose, et on récupérera ses librairies et on pourra lire des Blu-ray.
Ouais, parce que le problème là, c'est pas vraiment d'avoir le droit de hacker ou pas, c'est surtout après de publier, puisque si on veut faire du logiciel libre, il faut absolument qu'on publie nos sources, et en particulier la méthode de crack. Et ça ferait que même si les éditeurs autorisaient Vidéolan à faire ça, il y aurait les clés à public à se trimballer dans la nature, et donc n'importe qui derrière pourrait se mettre à faire ça. C'est un peu le problème.
Non, mais ce serait très interopérable.
Ça serait très interopérable, mais ça serait plus très très libre.
PC Impact, Open Bar entre Microsoft et la Défense, le libre ne veut pas trinquer. Un autre article de Marc Ress.
Eh oui, c'est un bon gars, hein, on aime bien. Et là, c'est un sujet grave, important, il y a des pépettes en jeu.
Alors c'est quoi cette histoire d'accord ? Normalement, dans le public, on est censé passer des appels d'offres pour ce genre de truc, non ? Et sans citer de marque ?
Et ben là, il n'y en a pas eu, en fait.
Et ils n'ont pas cité de marque.
Ils n'ont pas cité de marque, puisque Microsoft, en gros, a été voir la défense, leur a dit, bah voilà, on vous met à disposition tout ce que vous voulez, vous allez taper dans notre fonds de logiciels comme vous voulez, on régularise une année sur l'autre ce que vous avez utilisé, ça vous permet de faire des tests, et puis si vous, ça vous plaît, l'année suivante, vous passez à la caisse. Donc ça a été complètement dégagé du cycle de tout ce qui est appel d'offres public, négociation ou autre. Donc les associations, enfin les entreprises de logiciels libres n'ont pas pu être consultées là-dessus. Et aujourd'hui, le contrat arrive à expiration en mai, donc c'est revenu sur la table des négociations, et ils veulent repartir encore dans ce mode open bar, faire leur marché.
Quand c'est open, c'est bien, non ?
C'est pas top, parce que le problème, c'est que ça rend l'administration française complètement dépendante de Microsoft, on n'en sortira jamais, puisque là, ils ont accès à tout quasiment gratuitement, ils peuvent tester.
Enfin, pas gratuitement.
Ils payent 10 euros par poste, quelque chose comme ça, donc ça paraît négligeable, mais il y a 170 000 postes, donc ça fait quand même un paquet d'argent qui sont payés avec nos impôts, quand même. Donc voilà, les associations se sont levées et vont essayer de s'opposer à ça, essayer de faire respecter la loi et de repasser par un appel d'offres.
Surtout
public.
Que ça a une valeur d'exemple pour les autres ministères.
Pour les autres ministères, ça concerne uniquement la défense française pour le moment, mais je pense que ça doit être à peu près la même chose dans les autres ministères.
Voilà, ce qui est un petit peu rageant, c'est qu'on a l'exemple de la gendarmerie qui a mené un projet de migration vers le libre très ambitieux
et très réussi
depuis un peu moins de 10 ans maintenant, et que c'est la même maison, mais manifestement ça n'a pas fait des mules.
C'est rageant, l'April s'est emparé du sujet, et effectivement, sous côté marché public, on a des spécialistes chez nous donc qui vont essayer de dépiauter ça, j'espère qu'ils vont leur en mettre plein les dents, mais en même temps, c'est la défense, ils doivent avoir du répondant.
Framablog, les geeks sont les nouveaux défenseurs des libertés publiques, par G. Coleman, donc Gabriela Coleman, un article également traduit par Framablog.
Et oui, encore, ils ont des bons trucs.
Voilà, Gabriela Coleman est une anthropologue qui a étudié dans la durée, et on voit qu'elle maîtrise son sujet, les hackers et ce genre de choses.
Donc pour le coup, qu'est-ce qu'elle découvre et qu'est-ce qu'elle met en avant ?
Elle met en avant que depuis plusieurs années maintenant, les geeks, on va les appeler comme ça, sont de plus en plus ceux qui essayent de faire bouger les choses, qui essayent de défendre le citoyen par rapport à tout ce qui est les entreprises commerciales, les politiciens et autres. Donc les exemples qu'elle cite, ça a été SOPA et PIPAC,
c'était des lois aux États-Unis.
C'était des lois aux États-Unis qui étaient un peu liberticides, c'est un peu l'équivalent de notre Adopi.
Un peu beaucoup.
C'était le droit de surveiller les citoyens, le droit des accords commerciaux. Et donc c'est là qu'on a vu arriver les Anonymous qui ont commencé à se faire entendre. C'était à coup de DDoS, donc des attaques sur les serveurs. C'est un moyen comme un autre.
C'est pas des attaques, c'est des sit-ins. C'est pas tout à fait pareil, monsieur.
C'est pas pareil. Ouais.
Elle cite également toute la bataille contre ACTA et elle parle en Europe, en France, je crois, au moins en Europe, des manifestations physiques qui ont eu lieu, auxquelles on avait participé également. Et donc ça fait plaisir. Donc l'article est vraiment bien parce qu'elle rentre quand même dans le détail de comment ça marche. Donc on sort de l'article de presse généraliste sur ces drôles de gus qui ont des masques et qui essayent de faire peur avec ce genre de choses. Elle explique comment ça marche, quelle est la force du truc et tout. Donc vraiment un bon article. 01net Pro, la France du libre, combien de divisions ? Un article de Xavier Bizel.
Et on reparle cette semaine encore du CNLL.
Conseil national du logiciel libre, cette association d'entreprises, donc une association là qui est là pour défendre les intérêts de ces entreprises du logiciel libre, donc toute une série de chiffres qui sont donnés. L'article, sauf si le sujet vous intéresse, l'article apprend rien de neuf.
Ça va très bien pour le libre, ils ont du mal à recruter, donc si vous avez des profils, allez-y.
Voilà, il y a une jolie carte qui montre les clusters régionaux, donc les associations d'entreprises, et effectivement, on voit un petit peu où sont les grosses zones, dans le sud, autour de Lyon, autour de Nantes, par exemple. Et donc là-bas, il y a pas mal d'emplois. Vous allez pouvoir trouver des lieux où exercer vos talents de libriste.
Dans des entreprises très dynamiques qui font beaucoup de chiffres et qui grossissent énormément. Donc c'est très positif pour le logiciel libre.
Bon, sur ce, je vous dis à la semaine prochaine.
Et oui.
Allez, salut à tous.
Salut.
C'était la revue de presse de l'Association pour la promotion et la recherche en informatique libre, l'April, proposée par Emmanuel Charpentier, Luc Fievet et Nicolas Vineau.
Et qu'il soit remercié devant le grand pingouin éternel. La 60e 15e sortie du label 23 secondes est un voyage à travers leur catalogue, leur fond de catalogue. Une compile qui inclut 23 titres et qui couvre une vaste variété de genres musicaux, du pur indie pop au chill out rêveur, du hip hop à l'électro minimaliste. C'est le troisième chapitre de ces Evergreens qui commence à devenir une saga. Ce sont les compilations du Net Label, justement, histoire de faire entendre ce qui n'a pas forcément en tête de gondole, mais dans les fonds de catalogue.
Oui, tout à fait, tout à fait. Une très très bonne compilation que j'ai découvert justement en piochant dans ce Net Label qui recèle de bons forts artistes.
Et entre autres artistes, ce qu'on va écouter maintenant, c'est Tracing Arcs avec ce titre des petits cailloux et de l'herbe, Pebbles and Weed, sous licence Creative Commons by NCSA 3.0.
The inner sea. see the demos await.
Une longue balade, Tracing Arcs, c'est le nom du groupe Pebbles and Weed. C'était le titre de ce morceau en licence Creative Commons by NCSA 3.0, toujours extrait de la compilation Evergreen, troisième du nom du label 24 Seconds.
Vous êtes toujours sur Divergence Numérique, sur Divergence FM, Radio Escapade, Radio Larzac.
Et on les salue bien, tous ceux qui nous écoutent dans le, sur les hauteurs, là où il fait un petit peu plus froid qu'ici. On va donner quelques petites nouvelles avant de passer à la suite. Petite nouvelle évidemment qu'on peut entre autres retrouver sur linuxfr.org, une des bibles du geek, avec notamment Opera Ice, un nouveau navigateur à l'interface innovante avec du WebKit dedans. Opera, un des opérateurs historiques du navigateur, annonce la sortie de son nouveau routeur web pour les smartphones et tablettes, une nouveauté principale qui réside dans l'abandon du moteur de rendu interne Presto pour lui préférer WebKit. De même, il va utiliser V8 en moteur JavaScript, l'interpréteur JavaScript avec JIT de Google Chrome, une décision qui est sans doute due à l'utilisation exclusive du WebKit Apple dans iOS. En effet, Apple interdit tout autre navigateur, seule une interface du WebKit de l'iOS est autorisée. Version WebKit d'Opera donc, qui sera disponible en février ou en mars sur Android et probablement quelque chose y ressemblant en mars ou plus tard sur desktop et iOS. Opera Mini sera quant à lui encore maintenu quelques temps. Le prototype Opera Ice continuera à être développé, mais aucune date de sortie n'est pour l'instant donnée. Voilà, donc pour ceux qui utilisent ce navigateur, je crois qu'ils sont quand même assez nombreux, même si moi, c'est plus mon cas.
Alors, il y a des controverses quand même sur le changement de moteur d'Opera qui dit que c'est pas forcément une bonne chose pour le web. Donc, oui. Ça se discute.
Et on va dire qu'il s'aligne un petit peu comme on l'a vu avec l'histoire des Free ou Android, même si Mozilla Foundation va sortir son Firefox OS, même si Ubuntu va sortir aussi sa version mobile, ces deux distributions, enfin systèmes d'exploitation, sont quand même basés sur le noyau Linux de Google. Donc il y aura quand même des petites scories de logiciels pas vraiment libres à l'intérieur, c'est sûr.
Alors, spécial, 14 février, affichez votre passion pour le logiciel libre à l'occasion donc, de ce jour. La Free Software Foundation Europe vous encourage à montrer et exprimer votre attirance et passion pour le logiciel libre et sa communauté en envoyant un simple merci ce 14 février à toutes les personnes qui font ce que le logiciel libre est devenu aujourd'hui avec un joli petit logo « Show your love ». I love free software.
Voilà, il y a toute une série de bannières ou de logos à utiliser pour vos sites qu'on peut retrouver évidemment directement sur linuxfr.org. Et puis chaque année, Google, sur qui on casse parfois du sucre, organise son Google Summer of Code. Donc là, c'est en plein milieu de l'hiver que Google lance le coup d'envoi de la 9e édition de son été studieux pour étudiants développeurs. Le Google Summer of Code 2013, tous les ans, Google offre une bourse aux étudiants qui participent concrètement et sérieusement à des projets open source sélectionnés. L'occasion pour les étudiants d'être rémunérés jusqu'à $5,000 pour un travail en relation avec leurs études, de mieux connaître le monde open source, de faire progresser les projets libres et potentiellement de faire émerger de nouveaux contributeurs réguliers. Cependant, l'implication demandée n'est pas neutre, que ce soit pour les étudiants qui souhaitent y participer, le processus de recrutement peut s'apparenter à celui d'un véritable boulot, que pour les projets qui doivent encadrer les étudiants et valider leurs résultats. Comme on l'a dit, il vaut mieux retourner des bits que des steaks pendant l'été, mais c'est quand même du boulot. Donc n'hésitez pas, Google Summer of Code, c'est très facile à trouver sur Internet, bien évidemment. Si vous ne le savez pas, eh ben, c'est google-melange.com/GOSC. GSOC.
Alors, on peut regarder quelques sorties aussi. Par exemple, il y a Door Gets CMS, un très jeune CMS open source français. Alors, un CMS, c'est Content Management System, comme SPIP, Drupal, etc. Créez facilement, gratuitement et librement votre site internet avec le gestionnaire de contenu libre. Door, Gets, CMS, pour les caractéristiques techniques, rien d'extravagant. Donc, c'est un CMS en langage PHP qui utilise une base de données MySQL. Jusque-là, rien de nouveau. Il s'installe simplement. Il vous suffit d'avoir un nom de domaine, un hébergement, puis de transférer le contenu de l'archive sur votre espace web, de créer une base de données, démarrer l'installation. Ça se fait en 2 minutes. En accédant donc à votre adresse web, un des points forts quand même de ce CMS, c'est qu'il est nativement prévu pour être multilingue, 10 langues disponibles à ce jour. Je ne vous citerai pas toutes les langues. Et de plus, comme l'auteur l'indique dans sa vidéo de présentation, le CMS est programmé au minimum pour répondre à l'essentiel. Exit les zigouigoui et les autres trucs en Ajax.
Voilà, donc un CMS sobre. Et puis, on peut terminer par un outil qui intéressera les admins réseau. C'est GNMS pour GNOME Network Management System, un outil graphique de supervision de réseau écrit en Ruby GTK pour Linux. Chaque élément réseau est représenté par une icône dont la couleur change en fonction de son état. Sans passer par la case RC3, cette version 2.1 est surtout une mise à jour pour suivre les évolutions des bibliothèques GTK. La partie graphique a dû être réécrite afin, par exemple, de prendre en charge les GUI Canvas en place des canvas qui étaient devenus obsolètes. Une icône de notification a été ajoutée, désormais visible lorsqu'un élément du réseau change fréquemment de statut. La partie auto-découverte de nouveaux éléments a aussi été mise à jour, notamment par SNMP et LLDP. Une nouvelle version qui est la première disponible sous forme de GEM Ruby, ce qui félicite grandement l'installation des dépendances entre les différentes bibliothèques. Voilà, c'est toujours... Il y en a qui aiment bien avoir des interfaces graphiques pour voir ce qui se passe aussi. On va enchaîner avec un petit peu de musique après ces New News, toujours extrait de cette 3e compilation du label 23 Seconds. Et là, c'est Billy Comes Home qui
c'est le titre.
Et
c'est effervescent.
Effervescent, un drôle de nom pour un drôle de groupe.
Qui... Licence Creative Commons by NCSA 3.0.
3.0, comme un petit peu tout le monde. C'est le 10e titre de cette compile qui, je vous le rappelle, en compte 23 et est librement téléchargeable sur le site 23seconds.org. Hypervescent pour une pop très enlevée avec beaucoup de nappes de synthé et de petites notes partout. Plutôt super bien produit quand même, comme la majorité de ce qui sort sur 23 Seconds.
Oui, les pays représentés dans cette compilation sont le Canada, l'Indonésie, la Pologne, la Suède, la Turquie, le Royaume-Uni et les États-Unis.
Comme quoi, il y a de l'avenir dans la musique libre. Libérez votre téléphone, c'était le prétexte pour Alexander Alvaro, vice-président du Parlement européen et un des parrains du groupement d'utilisateurs Linux du Parlement, tout nouvellement créé à Bruxelles et sur lequel on reviendra dans les semaines à venir. Le 1er février, il lançait donc une invitation à une après-midi d'exposé et de discussion autour de la campagne de la Free Software Foundation Europe. Libérez votre Android. Donc, on le disait tout à l'heure, Android, un système d'exploitation pour appareils mobiles développés par Google principalement, qui est en partie libre mais aussi en partie super fermé, avec des logiciels qui ont souvent comme face cachée, on va dire, de pister, de traquer un petit peu les utilisateurs pour savoir ce qu'ils aiment, etc., histoire de vendre de la pub derrière. Il existe des alternatives, Cyanogen Mode ou autre. Il va en sortir de nouvelles comme le Firefox OS ou Ubuntu Mobile, mais en attendant, il y a déjà des solutions qui le font, et cette campagne vise d'une part à sensibiliser mais aussi à inciter tous les acteurs qui ont la compétence et l'envie à organiser eux-mêmes des ateliers pour que les gens puissent faire passer leur téléphone sous un système libre. On écoute cette présentation faite par Eric Albers, coordinateur adjoint de la fellowship de la FSFE, qui présente la campagne avec diverses interventions ainsi que du président de la FSFE, Carsten Gerlhoff.
Je suis Eric, je travaille pour la Free Software Foundation Europe. Vous voyez ici un flyer de notre campagne, juste au cas où vous ne sauriez pas ce qu'est la FSFE. Nous sommes une organisation à but non lucratif qui travaille pour le logiciel libre, pour sa promotion et son utilisation dans les administrations publiques, l'éducation, pour tous les utilisateurs. Nous ne produisons pas de code informatique, mais nous travaillons au niveau politique, au niveau sociétal et produisons de l'expertise juridique. Donc, Libérez votre Android est une campagne de la FSFE et allons-y. Je vais vous dire ce qu'est cette campagne et ce que vous pouvez faire, ce que nous faisons et ce que vous pouvez faire. Je pense que vous connaissez tous cette image. C'est un Android. Android est un système d'exploitation pour appareils mobiles. Il est basé sur le noyau Linux. Il est principalement développé par Google, licencié en tant que logiciel libre. Alors pourquoi menons-nous une campagne pour libérer votre Android si c'est un logiciel libre ? C'est parce que la FSFE ne s'occupe pas seulement des aspects techniques du logiciel libre, nous nous occupons aussi de la liberté des utilisateurs. Et si vous pensez à la liberté des utilisateurs, Android de base arrive avec des caractéristiques. Là, c'est la première. Si j'achète un Android aujourd'hui et que je le lance, ça aurait plutôt l'air de ça. Vous avez besoin d'un compte Google. Vous avez besoin d'ouvrir un compte Google pour vous authentifier. Et pour avoir un accès complet à mon équipement, je dois avoir un compte Google. Deuxièmement, si j'achète un nouvel équipement Android aujourd'hui, alors normalement, le fabricant installe des logiciels dedans qui, eux, sont propriétaires. Par exemple, vous avez une application Facebook, une application Amazon. C'est propriétaire, donc vous ne savez pas exactement ce qu'elles font. Et la plupart du temps, vous ne pouvez pas la désinstaller. Vous avez donc des applications qui tournent dont vous n'avez pas le contrôle, sans pouvoir vous débarrasser des applications dont vous n'avez pas envie. Et puis, en troisième, si vous n'aimez pas ce système d'exploitation et que vous désirez installer une alternative, alors vous devez avoir accès au bootloader. Et en général, il est verrouillé. Et pour le déverrouiller, par exemple ici, je dois lire et accepter le contrat suivant.
Et si c'est trop long et que tu n'as pas envie de le lire, j'ai surligné les points ici. Et donc si je déverrouille le bootloader dans ce cas, je n'ai pas le droit de revendre l'équipement après l'avoir déverrouillé. Mon équipement ne sera plus couvert par la garantie. Donc je n'ai pas le contrôle de cet équipement que j'ai acheté et qui m'appartient en propre et que je ne peux revendre si je l'ai déverrouillé. Est-ce légal de faire signer ce... C'est un point intéressant dont je pense qu'il devra être discuté au niveau des tribunaux. La FSFE a questionné des juristes sur cette perte de garantie au déverrouillage d'un appareil. Ils ont étudié la question et ont trouvé une directive européenne selon laquelle ce n'est pas légal. Cependant, les fabricants revendiquent cette perte de garantie au déverrouillage. C'est pour ça qu'on l'achète dans un magasin et pas auprès du fabricant, c'est au magasin de gérer ça. Oui, mais le magasin le renvoie au fabricant. Carsten Gerloff, président de la FSF Europe, coordinateur standards ouverts. La plupart des enseignes ont la politique de dire « Non, vous perdez votre garantie si vous déverrouillez votre téléphone ». Toutefois, l'opinion que nous soutenons au niveau légal est que vous pouvez trouver sur notre site dans une des sections et que non, déverrouiller votre équipement ne doit pas vous faire perdre la garantie. Et si un constructeur ou un vendeur vous affirme que vous perdez votre garantie, c'est tout simplement qu'il vous mente. Et il faut comprendre comment ça se déroule. Dans beaucoup de cas, ça peut dépendre de quelle quantité d'ennui vous voulez leur causer. Vous n'aurez probablement pas besoin d'aller en justice, mais si vous commencez à vous plaindre et à le faire en public et progressivement à en faire une espèce de tollé, comme cela, nous aurons des exemples qui serviront à d'autres et ainsi de suite. Donc, on a ce point de vue juridique qui, je pense, est assez fort, car je crois en la loi et puis c'est un début. Il y a eu un exemple d'un utilisateur qui a écrit à son fournisseur, fabricant, et qui a dit « Je veux déverrouiller mon téléphone » et j'ai lu la nouvelle par la FSFE, comme quoi j'ai le droit de le faire. Qu'en dites-vous ? Et le support lui a répondu « Ok, vous pouvez le déverrouiller », en dépit du fait que la page du fabricant disait autre chose. Donc je pense que si vous le faites, vous serez dans votre droit. Et votre effort, c'est vraiment de nous tenir informés. C'est important pour nous de savoir ce qui se passe. Nous avons des rapports où il n'y a pas de problème, où les vendeurs disent « c'est pas grand-chose, bien sûr, on fait ça ». Et d'autres cas où par dizaines d'emails, ils disent « non, vous perdrez votre garantie, vous n'aurez rien ». Ou bien le vendeur dit qu'il l'a renvoyé au fabricant et que celui-ci a dit qu'ayant été déverrouillé, il n'y a plus de garantie, même si c'est illégal. Pour revenir à notre petit dessin, votre Android, vous l'achetez aujourd'hui, il est lié à des services Google, vous avez des applications dedans dont vous ne pouvez pas connaître le fonctionnement, et vous ne pouvez peut-être pas déverrouiller l'appareil. Et si vous le faites, on va vous interdire de le revendre ou vous annuler la garantie. C'est exactement là que commence notre campagne. Car nous voulons un système d'exploitation qui nous autorise à installer les logiciels que nous voulons, où nous soyons autorisés à désinstaller le logiciel que nous voulons, où il n'y ait pas besoin d'avoir un compte pour l'utiliser, et où nous ayons le contrôle total de notre équipement. Il y a des alternatives libres au système Android. Comme je l'ai dit au début, la FSFE ne commande pas tel ou tel logiciel, donc je ne vous dirai pas lequel est le mieux ou le moins bien. Les deux à gauche sont des alternatives basées sur Android, donc toute application disponible sur Android l'est aussi sur celle-ci. Des systèmes d'exploitation libres qui viennent sans la nécessité du compte Google et des logiciels propriétaires mentionnés tout à l'heure. Sur la droite, on voit le Firefox OS, qui sortira cette année très probablement, et qui sera un système d'exploitation libre. Puis le lancement d'Ubuntu on Phone, qui est aussi une alternative libre au système d'exploitation l'Android.
Avoir un système d'exploitation libre est une chose, l'autre est d'avoir des applications libres, parce que sur mon équipement mobile, je veux pouvoir utiliser des applications. Le système Android est livré avec Google Play, qui est le magasin en ligne de Google. Une alternative de ça est le F-Droid, qui est un dépôt de logiciels libres. On l'installe comme une application et de là, on peut obtenir beaucoup plus d'applications pour toutes ces choses que l'on fait tous les jours avec son équipement mobile. Pour le courriel, l'agenda, le stockage distant, la navigation, etc. etc. Donc la campagne Libérez votre Android, ce qu'on a fait, c'est un portail qui donne les informations aux utilisateurs sur comment ils peuvent libérer leur téléphone, comment ils peuvent avoir des alternatives libres, comment ils peuvent prendre le plein contrôle de leur équipement. Nous soutenons la coopération entre des gens ou des organisations qui œuvrent aussi pour des équipements mobiles libres, au travers d'une liste de discussion par exemple. Nous poussons ces discussions sur la liberté logicielle sur les équipements mobiles à différents niveaux. Nous parlons avec des politiques sur les questions de droits des consommateurs. Nous menons des analyses juridiques sur les questions de garantie. Nous encourageons aussi les communautés à se mettre en place. Nous conseillons des développeurs en logiciel libre sur les questions de publication de leur travail. Et enfin, nous développons le logiciel libre de façon pratique en organisant des ateliers. Si on pense à des install parties, c'est assez similaire. On sort et on attire l'attention des utilisateurs qui peut-être n'ont pas de compétences techniques. Et nous leur disons qu'il existe des logiciels libres qui sont une alternative pour avoir le contrôle de son matériel, avec lesquels ils n'ont pas besoin d'avoir un compte Google. Puis on les aide à installer leur système, à déverrouiller leur téléphone, à flasher leur custom ROM, installer d'autres applications libres, etc. Nous avons mené à peu près 10 ateliers que nous avons organisés, principalement lors d'événements du libre. Une bonne façon d'aller vers le public. Lors de conférences, il y a des gens qui se promènent, qui vont voir, « Hey, il y a un atelier, ok, qu'est-ce qu'ils font ? Libérer son téléphone, c'est quoi exactement ?» etc. C'est une bonne promotion pour des gens qui ne sont pas au courant de ces logiciels libres pour appareils mobiles. Et ce que nous aimerions voir arriver, c'est de voir apparaître tout un tas d'ateliers de libération des téléphones partout en Europe. C'est précisément là que vous pouvez vous engager si vous avez la compétence technique ou si ça vous intéresse d'aider d'autres personnes à utiliser des logiciels libres sur leurs appareils mobiles. Peut-être êtes-vous dans un hackerspace, un lieu où vous puissiez organiser un tel atelier, vous pouvez vous engager. Vous pouvez nous demander, on a de l'expérience dans l'organisation d'ateliers, sur ce qu'il faut prévoir, on a des modèles de documents, on a du matériel de communication. Donc c'est ce que nous voudrions que vous fassiez. Ce que j'aimerais voir, c'est quand vous rentrerez chez vous et que vous connaissez un lieu où faire cela et que vous ayez envie de le faire, eh bien, on peut en parler après mon intervention ou plus tard et on peut vous aider à organiser tout ça. Et tout ce à quoi il faut penser quand on organise un atelier comme ça. Et là, c'est ce à quoi devrait ressembler un utilisateur après être venu à l'atelier. Avoir un téléphone libre et pas de cheveux. Ou comme ça. Donc vous voyez, ça rend vraiment les gens heureux de venir à ces ateliers. Donc pour résumer, ce que vous pouvez faire, c'est bien sûr d'utiliser des logiciels libres et de passer le mot, de parler aux gens de notre campagne, dire aux gens que vous êtes venus ici et que vous m'avez écouté ce que j'ai dit, et qu'il y a une page sur le site où on peut trouver de l'information. Il y a une liste de diffusion. Je ne sais pas si vous pouvez la voir. C'est android@lists.fsfe.org. Vous pouvez aussi vous renseigner sur les ateliers ou nous informer comment votre atelier s'est passé. Et c'est la fin, j'espère que ça vous a plu. Si vous n'êtes pas encore un supporter de la FSFE, je vous recommande de le devenir, c'est gratuit. Et si vous aimez cette campagne, allez sur fsfe.org/support. Merci beaucoup.
Thank you.
Il n'y a pas de quoi. C'était donc Eric Alberts de la Free Software Foundation Europe pour cette présentation de la campagne Free Your Android. Et je pense que il n'est pas exclu qu'à Montpellier s'organise quelques petits ateliers comme ça, car de retour de Bruxelles, eh bien, notre ami Jean-François notamment était super chaud pour partir à l'assaut de ces ateliers. Eh bien, on va devoir se quitter car l'heure a tourné. Avant de se quitter avec un nouvel extrait de cette troisième compilation du label 23 Seconds, peut-être quelques rendez-vous alors sur agendadulibre.org pour l'Hexagone, avec peut-être notamment en ce moment-là le sprint de programmation d'Arx à l'Iril Paris 13 va démarrer, ça démarre demain d'ailleurs, et puis bon, plein de
pas
rendez-vous.
Toulouse, grosse actualité à Toulouse, des ateliers de travail sur KDE, initiation à Python,
sympa
Blender, etc.
Pas mal de choses. Et puis, voilà, Lille Install Party le 19, à Toulouse, rencontre logiciel libre le 20, à Chambéry, troisième jeudi d'Alpinux. Alpinux, ben oui, un groupement d'utilisateurs Linux dans les Alpes, comme son nom l'indique fort à propos.
Le 24 février à Lyon, week-end OpenStreetMap.
OpenStreetMap, comme de temps en temps aussi à Montpellier.
Tout à fait. Prochaine carte au parti, ce sera à Malbosque, Euromédecine.
Voilà, carte au parti dont le but, rappelons-le, est toujours de cartographier l'accessibilité de notre bonne ville pour que tout le monde puisse réutiliser ces données, et notamment ceux qui sont en situation de handicap.
Oui, pas que. Par exemple, si tu as des enfants en bas âge avec une poussette, que la poussette ne rentre pas.
C'est assez handicapant d'avoir un enfant bas âge, je confirme.
Oui, mais il faut pouvoir le faire entrer dans les établissements. Et des fois, c'est pas assez large pour faire passer la poussette.
Tout à fait. On vous rappelle montpel-libre.fr pour tout le reste. Agendadulibre.be pour la Belgique, .ch pour le Canada, .qc.ca pour nos amis québécois. Et on va se quitter donc avec Pulse, un titre de Bart Bomiej Wobiniek.
Un polonais.
Un titre de 2010, donc extrait de cette compilation Evergreens Volume 3, que vous pourrez retrouver évidemment sur le site du net label 23seconds.org.
Et sans licence, Creative Commons by NC Andy 3.0.
Sur ces entrefaites, nous vous souhaitons une excellente semaine, de rester libre bien évidemment. On se retrouve la semaine prochaine pour parler aussi de ce qui s'est passé justement à Bruxelles quand nous y étions, et notamment de ce nouveau groupement d'utilisateurs Linux au Parlement qui, espérons-le, arrivera à faire bouger les lignes.
Restez libre la semaine prochaine.